Et bien, je veux bien que vous commenciez par simplement vous présenter un peu, me dire d'où, si vous êtes du coin, d'où vous venez, que faisaient vos parents, voilà, des choses comme ça.
Voilà. Donc, je m'appelle Nathalie Jante, je suis volnésienne. Je suis née à Volnay, je suis née à Beaune, à l'Hôtel Dieu, le 15 mars 1959. Mes parents sont de Volnay, on est issus d'une famille de Volnésiens. Voilà, j'ai toujours vécu à Volnay depuis 60 ans. Je n'en suis partie que pour faire une école hôtelière en 1978, mais j'ai toujours vécu dans le village et habité dans le village.
D'accord, dans cette maison là.
En partie. 1982. Mais mes parents habitent à 200 mètres dans le village.
D'accord.
Donc et c'est une maison de famille où nous logeons actuellement, donc j'ai peu vécu ailleurs.
D'accord. Et vos parents faisaient quoi ?
Mes parents étaient viticulteurs d'un domaine à Volnay. Voilà, donc un domaine que mon père a développé.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis en 1975, mes parents ont eu l'opportunité d'acheter cette maison, qui était la maison des grands-parents de mon père. Le vin se vendant plus difficilement en 1975, mon père a décidé d'en faire un caveau de dégustation pour y vendre son vin. Et puis, voilà, l'activité m'intéressait. Et maman a fait la cuisine pendant quelques années pour des amis, fait des soirées coco vin, des soirées formerettes. Et mes parents ont décidé d'en faire un restaurant. Donc, j'ai fait une école hôtelière en 1978 et donc j'ai repris l'activité en 1979.
D'accord. Voilà. Donc, c'est vos parents qui ont fait de ce lieu un restaurant et il y avait déjà, parce que donc si j'ai bien compris, il y a une cave et un restaurant, c'est ça ?
Voilà. Donc, au départ, c'était un caveau de dégustation, vente de vin emporté. Mmh. Et puis, dans les mêmes lieux, ça a évolué en restaurant.
Mmh. Et au départ, c'était pour votre papa la possibilité de vendre son vin à lui. Donc, il vendait que son vin au
départ. Son vin à lui.
D'accord. Mmh.
Que son vin à lui uniquement. Parce que mes parents ne souhaitaient pas recevoir des clients à l'époque au domaine. Donc, c'était...
Ouais. Voilà. Donc, pardon, vous disiez, du coup, quand vous étiez petite ici...
Le village, à l'époque, représentait... Enfin, il y avait 400 habitants.
Ouais.
Donc... À l'école, tous les enfants étaient des enfants de viticulteurs. C'est plus comme aujourd'hui. On était dans le village, on était sur la place, on se promenait, on allait cueillir des fleurs sur la montagne, on construisait des cabanes. Il y avait beaucoup de solidarité et beaucoup de... voilà, de mon année de 1959, on devait être 6 ou 7 enfants. Et dans l'école, les classes étaient pleines. Il y avait 35 élèves. Tout le monde se connaissait. On se retrouvait les mercredis, les samedis, le dimanche à la messe, naturellement. Donc, voilà, mes parents nous laissaient dans la rue. On habitait à l'extérieur du village, à 200 mètres un peu plus bas. Mais on montait avec mes frères sur la place du village, retrouver les petits copains de nos âges. On jouait au ballon, on jouait à la marelle, enfin différentes choses. Donc, je garde de très bons souvenirs de ma jeunesse et de mon enfance dans le village. J'avais beaucoup de copines. Par la suite, par rapport à la viticulture, l'été un peu plus grande, j'allais faire des travaux parce que j'aime bien le soleil. Donc, mon papa me laissait une vigne à Meursault où j'allais en mobylette. Et je rognais, donc je coupais la végétation qui est au-dessus dans les vignes. Puis ça me faisait mon argent de poche et je bronzais, je me mettais en maillot de bain, j'avais ma petite radio à la ceinture. Et voilà, comme je voulais m'acheter, avoir un peu d'argent de poche, le deal c'était ça. Mon père m'a dit « Ok, mais tu vas aux vignes ». Et moi j'étais ravie, j'allais tous les jours, pendant les vacances d'été, faire ces petits travaux-là, toute seule.
C'était ce petit bout de vigne qui vous était réservé.
C'est la vigne de Meursault dans les Chevalières. L'été, j'avais la tâche d'aller la rogner. Donc, voilà, pour moi, ce sont d'excellents souvenirs. Mm. Bon, je vous dis, à part les vendanges ou quand il faisait mauvais. Mais malgré tout, mes parents, à l'époque, avaient un domaine très important. Il y avait une quarantaine d'hectares, donc il y avait beaucoup, beaucoup de vendangeurs. Maman faisait la cuisine pour une soixantaine de vendangeurs. On les logeait, on les nourrissait. Mais à l'époque, il y avait des musiciens, c'était des jeunes gens très intéressants. Le soir, ils chantaient, on dansait, il y avait des violons, des guitares, et je garde d'excellents souvenirs de cette période qui a beaucoup changé. Au jour d'aujourd'hui, mon frère me dit, non, c'est... voilà, l'état d'esprit des vendangeurs a beaucoup évolué. Donc voilà, c'était très gai et très animé.
Ils venaient d'où tous ces
Un
vendangeurs?
peu partout, des étudiants français. Je me souviens, on a eu plusieurs années de suite des promos d'école d'ingénieurs agro. Et ils étaient une trentaine à venir, et comme leur rentrée était plus tardive, et c'était très 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 sympathique et très animé. Et puis les conversations étaient intéressantes parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. J'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Ouais.
Et toute petite, déjà, enfin, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait que des enfants de vignerons. Enfin, je veux dire, vous formiez une forme de communauté entre les vignerons. Enfin, je veux dire, quelle vie il y avait entre les vignerons? Est-ce que vraiment ils se voyaient souvent? Est-ce qu'ils partageaient beaucoup de choses? Quel était enfin, voilà, le niveau d'entraide de...
À l'époque, je dirais, moins qu'aujourd'hui, au niveau de l'entraide, même si dans chaque village, il y a une société de secours mutuel qui veut que si un vigneron est malade, si il ne peut pas faire ses vignes, le village aide cette personne à faire tous ses travaux. Ça, c'est une société, je pense, qui a toujours existé. Moi, à mon époque, j'ai le souvenir de périodes un petit peu plus délicates dans les années 70 où le commerce de la bouteille était moins évident parce qu'il y avait de grosses productions de vin et chacun guettait un peu sur le trottoir les clients qui venaient dans le village et accaparait ses clients qui venaient. Donc, pour moi, dans les souvenirs que j'ai, c'était plutôt un peu chacun pour soi, le commerce de la bouteille se développait, et eh bien, il fallait être bien placé dans le village pour recevoir les clients potentiels qui passaient. Il en passait beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Donc, c'est-à-dire que, alors moi, je n'ai pas très bien la chronologie en tête, mais les années 70, ça correspond à une période où le vignoble, le bourguignon, prenait encore plus d'importance qu'auparavant, c'est ça?
Oui, ça se développait, mais c'est surtout qu'il y avait des années avec beaucoup, beaucoup des récoltes très, très, très abondantes. Et le négoce local de Beaune, on va dire, achetait les récoltes aux viticulteurs, parce que le commerce de la bouteille était moins développé qu'aujourd'hui, et les vignerons vendaient en gros du vin en vrac au négoce local. Ce qui veut dire que ce qui restait en bouteille, bah, il y en avait beaucoup, il fallait chercher des clients. Mais la région n'était pas aussi touristique qu'elle l'est aujourd'hui. Du fait des climats, du fait de plein plein de choses, de la communication et autres. Donc, il ne passait pas autant de monde pour acheter du vin qu'aujourd'hui. Donc, bah, voilà, il fallait... Les Volnésiens ont commencé, mais comme dans tous les villages, à mettre des panneaux, vente à emporter, cave ouverte, porte ouverte. Et ça s'est développé pour moi à cette période-là. Et c'est pour ça, oui, mon père a eu l'idée de créer la maison, d'acheter la maison en 73 et en 74 pour l'ouvrir en 75, parce qu'il avait beaucoup de vin à vendre et que s'il le vendait en gros au négoce local, il le vendait pas suffisamment cher, quoi. Donc il a dit, il faut développer le commerce de la bouteille pour, voilà, pour finalement vendre son vin. Mais il n'était pas le seul, tout le monde était dans le même cas.
Et vous savez comment ça a émergé, cette conscience que... Bah, qu'il y avait de l'argent à se faire aussi, hein, que ça prenait de la valeur petit à petit, qu'il fallait se positionner sur le marché, tout ça. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça?
Bah pour moi, c'est lié aux négoces qui achetaient à des prix très bas. Et ça devenait un petit peu tendu au niveau de la trésorerie des viticulteurs. Ils se sont dit, bah, si on veut vivre de notre métier, il va falloir trouver une solution. Alors j'imagine qu'il y a des syndicats professionnels dans toutes les communes. Et voilà, il y a dû y avoir des conversations. Là, moi, mes souvenirs ne sont pas assez précis. Mais pour moi, il y a une prise de conscience comme quoi il fallait attirer le client particulier, voire des agents, des importateurs sur place pour qu'ils viennent voilà, et arrêter de vendre à des prix trop bas.
Et alors, vous vous souvenez qu'est-ce qui était fait pour ça? Vous avez dit on mettait des panneaux, les viticulteurs étaient sur les trottoirs à alpaguer les gens, vous dites?
Oui, moi je me souviens d'un monsieur âgé dans le village qui était sur la place du village et puis qui guettait un monsieur, il était âgé, et qui disait quand il voyait une voiture arriver et que les personnes cherchaient Ah, vous cherchez monsieur un tel? Ah, ben c'est mon cousin, de toute façon on fait le même genre de vin, c'est pareil, venez chez moi. Et c'était connu dans le village pendant des années. Il rabattait les clients chez lui, alors que ça n'avait absolument rien à voir avec les personnes qui cherchaient.
D'accord.
J'ai toujours plus aujourd'hui, mais dans les premières années où moi j'ai repris le restaurant 79, il y avait des clients qui me disaient « Ah, mais vous vous souvenez du petit monsieur qui était sur votre trottoir, il nous avait rabattu chez lui ?» Bon, ben voilà, c'était comme ça.
Ah ouais, c'était dans les années locale quasiment.
Voilà, dans les années 70, ça se faisait comme... À Volney, c'était comme ça. Mais je sais qu'à Pommard, il y avait un peu les mêmes personnes. Voilà, il fallait attirer les clients pour en vendre du vin en bouteille.
Et donc, vos parents, leur stratégie à eux, ça a été d'ouvrir le restaurant? Ça a été un peu cette idée-là?
D'ouvrir un caveau, déjà, ou d'ouvrir un caveau de dégustation pour vendre du vin aux particuliers qui venaient dans le village. Et puis, après, il y a eu cette formule de restauration qui est venue un an après l'ouverture du caveau, où là, ça a développé vraiment beaucoup la vente de vin.
Vous étiez en train de dire
le papy sur mon trottoir
Oui, que vos parents donc ils avaient donc ouvert le restaurant pour
développer l'activité de vente de bouteilles.
Et oui, ce que je me demandais, c'est ce domaine qu'avaient vos parents, il appartenait déjà à vos grands-parents? Comment est-ce que c'est un domaine qui était...
Mon grand-père avait très très peu de vignes, il avait un tout petit domaine. C'est mon papa qui a développé l'activité.
D'accord.
Mon grand-père était peintre, mon grand-père était artiste peintre, il était viticulteur, mais c'était vraiment un tout petit domaine.
D'accord. Donc,
voilà.
C'est
mon grand-père qui l'a créé, oui.
Donc c'est votre grand-père qui l'a créé,
oui.
Mais est-ce que c'était plus pour lui au départ, ou c'était quand même déjà dans une idée de vendre du vin?
Oui, déjà un peu, mais mon grand-père était plus un artiste qu'un terrien, j'allais dire. Dans les années 50, il a inventé un tracteur enjambeur. Mon grand-père était plus un artiste, il avait un tout petit peu de vigne, mais c'était pas un terrien. Voilà.
Il a inventé un tracteur enjambeur?
Oui.
Ça veut dire quoi?
Il a créé un modèle de tracteur enjambeur.
Qui n'existait pas?
Qui n'existait pas.
Parce voilà. Qu'il lui manquait quelque
Parce
chose.
Parce que c'était un inventeur, c'était quelqu'un qui avait considéré que le cheval c'était bien, mais c'était un peu compliqué, qu'il y avait sûrement une méthode pour mécaniser le travail de la vigne. Et donc il a inventé un tracteur.
Parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas, le tracteur enjambeur?
Non, non, non.
Donc, il était le premier à inventer cette idée
oui,
de...
Oui, 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 oui.
D'accord.
Et c'est Monsieur Loiseau, c'est les tracteurs Loiseau de la région qui ont repris le brevet. Voilà, mon grand-père, il n'a pas pensé à déposer le brevet, donc voilà, il s'est fait un peu souffler son truc, mais c'est lui qui a créé le premier tracteur enjambeur de la région, en Bourgogne.
Et donc, il en avait bricolé un lui-même
Oui, il l'a fait construire. Oui, oui.
Ok.
Oui, 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 oui.
Et vous vous souvenez d'où c'était venu de ce c'était pour parce que voilà
il a besoin
d'améliorer
Il s'est dit c'est bien beau d'aller d'avoir un cheval, une charrue, c'est quand même un peu physiquement c'est dur, il y a sûrement un moyen, il était passionné de moto, de mécanique et donc c'est lui qui a créé un modèle adapté qui enjambait un rang de vigne.
Vous l'avez connu, votre grand-père?
Oui, mais peu, parce que j'avais 5 ans quand il est décédé. Donc,
Vous ne vous souvenez pas de ce qu'il vous racontait,
l'époque. Non, il a pris sa retraite et après, c'est mon père qui a repris. Il avait une maladie de cœur, mon grand-père. Il leur fallait un climat plus clément que la Bourgogne, qui était trop humide. Donc, ils sont partis vivre dans le sud de la France. Et il est mort assez rapidement dans le sud... Il n'avait pas voulu se faire soigner, enfin bref. Donc, mon père avait repris l'exploitation dans les années... Oui, quand je suis née, en 58, un an avant ma naissance.
D'accord. Et vous vous souvenez de ce qu'ils vous racontaient, vos parents, de cette exploitation? Qu'est-ce que ça représentait pour eux? Est-ce que c'était important?
Oui, c'était important. Mon père est attaché à la terre. Maman s'occupait de toute la comptabilité, du secrétariat... Nous sommes 5 enfants, hein, mais elle a beaucoup y avait déjà beaucoup de paperasserie, beaucoup de choses dont il fallait s'occuper. Et puis, quand il recevait des clients, et puis après, à partir des années 70, il y a eu ici l'activité du restaurant. Donc, elle s'occupait de... Mais la famille de ma maman n'était pas dans le monde viticole. Hein, elle est d'Auxey-Durès, mais ses parents n'étaient pas viticulteurs. Donc, pour elle, ça a été une découverte, même si son frère était viticulteur. Donc, maman n'allait pas aux vignes. Voilà, elle avait beaucoup de choses à faire, hein, mais elle s'occupait de toute la gestion du domaine. Et mon père allait beaucoup aux vignes au début, et puis après un petit peu moins, naturellement. Mais on parlait les dîners à la maison, on parlait des clients, on parlait des travaux de la vigne, des salariés, parce qu'avec une quarantaine d'hectares, il y avait beaucoup, beaucoup à faire. Mmh. Hein. Mes parents vivaient sur le domaine, au même endroit. Mmh. Donc... Mon enfance a été bercée par la viticulture, par des achats de vignes, par des... En héritage, non, c'est mon père qui achetait les vignes. Il avait emprunté au départ de l'argent à un oncle pour pouvoir développer son domaine. Non, la perpétuité, la transmission, la conservation du domaine...
Et votre maman, elle le vivait comment, ce milieu viticole, elle qui en venait pas forcément?
Elle le vivait, même sans aller aux vignes, ça faisait partie de son quotidien, quoi. Mmh.
Ça lui plaisait?
Oui. Bah c'était, ils ont su développer l'activité de façon à trouver un équilibre, et financier et et puis garder et conserver le patrimoine qu'ils avaient développé, hein, au fil des années. Parce qu'au départ, quand ils se sont mariés, le domaine était tout petit. Hein, s'il y avait 2 hectares, c'était tout. Hein, c'était un tout petit domaine. Et donc, je pense que maman l'a vécu sereinement.
Mmh. Il travaillait beaucoup,
beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Bon, il n'y avait pas les salons... depuis quelques années, il y a des salons qui se sont développés pour vendre du vin. À l'époque, mes parents n'en faisaient pas. L'objectif, c'était de vendre du vin aux clients qui passaient.
Et la répartition des tâches, comme ça, votre papa qui allait plutôt faire la vigne et votre maman qui accueillait les clients, les salariés, enfin qui s'occupait des salariés, qui faisait la paperasse, c'était... normal à l'époque, je pense.
Classique.
Voilà, mais ça n'a jamais été remis en question. Non. Votre maman, ça lui convenait comme ça, votre papa aussi.
Ça se faisait comme ça. Hein. Donc, dans tous les domaines, je vois mes copines, mes copains, c'était comme ça chez tout le monde. Hein. Il était conseillé de se marier quand on était fils de viticulteur. C'était bien de se marier avec une jeune femme qui s'occuperait de la gestion du domaine au niveau des papiers, de faire la cuisine des vendanges, de s'occuper des vendanges, et c'était une évidence, on va dire. Ça l'est plus aujourd'hui, mais c'était un peu comme ça.
Et vous, à l'époque, d'être dans ce milieu où, du coup, vous voyez qu'il y avait cette place, est-ce que vous vous êtes projetée? Vous êtes dit, je vais être femme de viticulteur, je vais faire comme ma maman, ou pas? Ou ça vous fait peur?
Oui, ça aurait pu, mais ça aurait pu. Mais non, ça ne m'a pas fait peur du tout, mais la vie en a décidé autrement. Je me suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans la viticulture. Et après, les temps changent. Moi, j'étais très, très prise par mon activité liée au vin, parallèlement, puisque je suis dans le commerce du vin et dans la restauration. Mais c'est la vie qui en a décidé autrement. Hein. Mais,
oui, c'était pas une pression que vous sentiez, une obligation.
Ni dans un sens, ni dans l'autre. Non, j'avais dit, jamais je ne me marierai avec un viticulteur, ni à l'inverse. C'était pas du tout...
Et entre camarades, donc vous étiez tous enfants de viticulteurs, vous disiez, est-ce que vous parliez des domaines des uns des autres?
Pas du tout. Et d'ailleurs, dans les camarades de mon âge, je crois qu'il n'y en a aucun qui a continué. Il y avait beaucoup de filles, à part une qui est œnologue dans une grosse maison de Nuits-Saint-Georges. Autrement, les garçons... les 3 garçons qui étaient de mon âge ne sont pas restés dans le village.
Ah oui, vous savez pourquoi ?
Non, parce que la vie en a... Non, ça s'est trouvé autrement. Mais dans ces trois, il y avait quand même un garçon dont le papa était employé dans un domaine viticole. Et lui, ils ont déménagé, ils sont partis ailleurs. Un autre est rentré à pas l'UNESCO, mais bref, a fait un métier complètement différent. Donc, et le troisième, il est courtier en vin quand même.
D'accord. Mmh. Un petit lien.
Oui, ouais. Un petit lien. Ouais, ouais. Et les filles, non. Ont eu peut-être des frères qui ont continué l'exploitation, mais les filles de ma génération ne reprenaient pas, c'est relativement nouveau ça, ne reprenaient pas les exploitations viticoles.
Mmh. Oui, parce que ça ne se faisait pas.
Ça ne se faisait pas. Mmh. Ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait, mais à l'époque, ça ne se faisait pas, non. On s'adressait plutôt à un neveu éventuellement s'il n'y avait que des filles, mais moi je me souviens de ma génération, il n'y avait aucune fille qui a repris le domaine de ses parents.
Et vos parents, vous disiez tout à l'heure, ils avaient plusieurs salariés.
Oui.
Vous vous souvenez de combien à peu près, enfin, comment ça s'organisait?
Il y avait une douzaine de salariés, 10-12 salariés hein, qui allaient aux vignes.
Donc qui étaient employés à l'année.
Qui étaient employés à l'année, voilà. Ouais, une douzaine. Les vignes étant quand même dans un périmètre assez proche, avec une quarantaine d'hectares, il fallait de la main-d'œuvre. Hein. Mon père et quelqu'un d'autre s'occupaient de tout ce qui était tracteur. Et puis, il y avait un certain nombre de salariés qui, eux, allaient dans les vignes parce que c'est un travail quotidien, quoi. Il faut aller aux vignes. Et si ce n'est pas dans les vignes, il y a des travaux à faire dans la cuverie pour surveiller les vins, les mettre en bouteille. Enfin, c'est toute une... C'est un travail à l'année.
Et comment, il y avait une hiérarchie
Il y avait une hiérarchie, il y avait les tracteuristes, donc ceux qui conduisaient les tracteurs, qui étaient, ils étaient deux, plus mon père, et puis il y avait autrement tous les employés, tous les ouvriers viticoles qui, eux, allaient dans les vignes.
Donc les tracteuristes étaient
au-dessus, ils avaient un salaire un peu plus important que les autres.
Et comment ça se passait, la répartition entre ouvriers viticoles, vinicoles? Est-ce qu'ils travaillaient et dans les vignes et à la cuverie, les tous?
Oui, ils travaillaient toujours tous ensemble. Quand ils allaient dans les vignes, souvent ils étaient... soit partagés dans deux vignes, soit si la vigne était grande, ils étaient tous dans la même vigne. Après, pendant les vendanges, il y avait deux personnes qui étaient vraiment désignées pour guider dans les vignes, les vendanger la vigne des voisins. Et voilà, mais je me souviens qu'il y a toujours eu... il n'y a jamais eu de problème de personnel à l'époque. Hein, il y avait toujours une belle entraide. Mon père en logeait. On avait une maison dans un village à côté, à Auxey-Durès, où on logeait certains de nos employés. Je me souviens de bons rapports des hommes. C'était que des hommes à l'époque. Et tout le monde... Moi, je me souviens d'une belle convivialité. Souvent, ils déjeunaient à la maison. Maman faisait à manger. Nous, on était déjà sept. Hein. On est cinq enfants, plus mes parents. Et il y avait toujours trois, quatre, cinq employés qui déjeunaient à la maison. Maman, pendant toute son activité... Il y avait des grandes tables, quoi. Je me souviens de pot-au-feu, de blanquettes. Il y avait toujours une belle harmonie. C'était très convivial.
Et ça, vous l'avez vu évoluer?
Oui, je l'ai vu évoluer parce que... je l'ai vu évoluer parce qu'après, on nourrissait moins de personnes. Certains ont accédé à la propriété, donc se sont achetés des maisons. Et puis mes parents ont eu de plus en plus de mal à trouver des employés au fil des années. Donc, ça a évolué. Comme je vous parlais des vendanges tout à l'heure, c'est pareil. L'état d'esprit général, on va dire, a quand même évolué. Bon, là, mon frère a deux salariés en permanent. Après... il emploie des saisonniers en fonction des travaux à faire dans l'année. Mais ça n'a plus rien à voir entre 12 salariés et 2, tout est différent.
Ah oui, il a beaucoup moins de salariés.
Oui, mais il a un peu moins de vignes.
Ah, il a un peu moins de vignes.
Mes parents ont divorcé, donc si vous voulez, il a fallu vendre certaines vignes. Et puis il y avait des fermages, des vignes que mon père avait en location. Donc soit les fermages se sont arrêtés, soit voilà, c'est ce qui s'est produit.
Et vos autres frères et sœurs, ils sont...
Ils ne sont pas dans l'activité. J'ai une sœur qui est enseignante. Mon frère est un jeune de mes frères qui est ingénieur en Suisse chez Dupont de Nemours. Et mon autre frère vit à Annecy. Voilà.
D'accord.
Ils n'étaient pas intéressés pour reprendre l'exploitation.
Ok. Et ils gardent des parts? Comment ça se passe?
Mes parents sont toujours en vie, donc oui. Pour l'instant, la succession n'est pas encore faite.
Ça risque d'être une difficulté, ça ou...
Ça, c'est possible.
Ah oui.
Mmh. Ouais. Nous verrons.
Pour garder le domaine.
Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. Enfin, la société, il y a une société d'exploitation qui gère le domaine, donc tant que le bail n'est pas échu, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas de raison que le domaine soit divisé. Nous verrons un peu plus tard.
Oui, ça dépendra de la cohésion
voilà.
familiale.
Exactement.
Est-ce que vous vous souvenez des fêtes? Est-ce qu'il y avait des fêtes viticoles à l'époque, quand vous étiez petite?
Oui. Le village de Volnay a un saint qui protège le village, qui est Saint-Cyr. Et chaque année, au mois de juin, c'est souvent le troisième dimanche de juin, on le fête toujours d'ailleurs. Donc, il y a une messe, et à la suite de cette célébration religieuse, le saint, physique j'allais dire, qui est une petite statue en bois, change de domaine viticole, chaque année.
Saint-Cyr.
C-Y-R. Et ce saint protège le domaine, qui a été sélectionné pendant une année. Donc voilà, ça tourne, hein, chaque année, le petit saint protecteur change de domaine et apporte la protection au domaine. Nous l'avons eu en 1985 ou en 86, je ne me souviens plus très très bien. Et donc voilà, il faut l'exposer dans la maison et puis en prendre soin, naturellement. Et c'est une tradition qui perdure, toujours. Au niveau du syndicat du village, quand vous êtes... jeune viticulteur, on va dire, vous intégrez le syndicat du village et puis, quand ce sera votre tour, vous recevrez le saint qui protégera votre exploitation. D'accord. Et alors, ça donne l'occasion de recevoir tous les villageois, de proposer un apéritif dans votre cuverie et puis de servir des petites gougères. Et c'est une fête qui est très conviviale, qui réunit tout le village. Ça a toujours lieu d'ailleurs. Et puis autrement, il y a une manifestation qui a lieu en janvier, au moment de la Saint-Vincent des villages, c'est le 22 janvier, et il y a un grand repas qui a lieu avec tous les viticulteurs qui veulent bien en faire partie.
Et à cette occasion-là, je me demandais, est-ce que les ouvriers viticoles sont...
Après, c'est le viticulteur qui décide ou pas de les inviter, mais en général, oui.
En général, oui.
Oui.
D'accord. Vous, vis-à-vis de cette place des ouvriers viticoles dans la vie de la viticulture, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont reconnus pour ce qu'ils font, qu'ils sont payés correctement? Enfin, je ne sais pas, ce type de choses.
Alors moi, j'ai un regard un peu extérieur, hein, parce que ça n'est pas... Je pense que... Aujourd'hui, il y a quand même un gros problème de pénurie de salariés. Tous les amis que j'ai ou beaucoup qui cherchent des employés viticoles n'en trouvent pas. Il y a une surenchère au salaire parce que, j'allais dire, il faut proposer un salaire attractif si on veut trouver un employé viticole. Et surtout s'il y a des qualifications genre tracteuriste c'est très compliqué, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que si on aime travailler à l'extérieur, c'est un métier qui est très intéressant, très varié. On va dans la vigne, on est dans la cave, dans la cuverie, il y a les vendanges, c'est très varié. Moi, je trouve que si j'avais un problème d'emploi et que je doive trouver un travail, même si c'est pas forcément mon premier choix, ça ne me déplairait pas. Quand on est dans un domaine intéressant, pourquoi pas?
Donc oui, vous avez l'impression que les salaires en ce moment sont plutôt valorisés parce qu'il y a une pénurie de salariés. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il y a une pénurie de salariés? Justement parce que bon, on est quand même dans un milieu où il y a des vignobles de partout et c'est quand même un métier qui devrait être attractif.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que pour vous qu'il y a...
Je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Mais alors que, je sais pas, il y a quand même beaucoup de personnes qui cherchent du travail et peut-être le fait d'être dehors, même quand il fait mauvais, quand il fait froid, il n'y a pas vraiment de pénibilité parce que quand il brûle des sarments, il y a quand même la brouette qui réchauffe, ils font des feux pour brûler le sarment. Je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Je sais que voilà, beaucoup cherchent des employés sans trouver. Ça me semble un petit peu dommage, mais
Et parmi les employés aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de femmes qu'auparavant?
Oui, de plus en plus. Ouais. De plus en plus.
Avant, les femmes, il y avait, enfin, de votre époque, du coup, il y avait des femmes dans les vignes qui faisaient vraiment le travail de la vigne ou
Alors, si le domaine était petit, c'était l'épouse qui allait aux vignes.
Avec
son
mari.
Avec son mari, de façon à ne pas forcément avoir trop de salariés. Et les femmes n'étaient pas salariées. Les épouses, à l'époque, n'étaient pas salariées. Hein. Ce qui pose quelquefois des problèmes quant aux retraites, aujourd'hui, de toutes ces femmes, de toute cette génération, parce qu'elles n'ont pas cotisé. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de femmes dans les vignes. Ouais. Et les épouses des viticulteurs ont tellement plus de travail, de gestion, du domaine, qu'elles vont un peu moins aux vignes, elles. Mais oui, on voit beaucoup plus de femmes. Ah, par contre, on n'en voit pas à conduire des tracteurs, ou très très peu. Dans le village, j'en connais aucune. Il y a peu de femmes, ou pas, parce que c'est un métier qui est quand même et à risque et un peu difficile. Mais on voit beaucoup de femmes dans les vignes, oui. Mm. Ah oui. Mon employé, sur ses 6 salariés, il a 3 femmes, mon voisin. Donc non, on en voit de plus en plus. Mm.
Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous vient en tête sur l'évolution de la vie du village, où vous m'avez dit un peu des choses déjà sur au final l'entraide est plus importante aujourd'hui.
Oui.
Mais qu'en même temps vous avez l'air de dire qu'il y avait plus de vie avant. Est-ce que c'est...
Ben, le village était plus peuplé aussi. Oui. Aujourd'hui, les jeunes viticulteurs qui ont entre 30 et 45 ans se reçoivent entre eux. Ils font des dégustations chez les uns, chez les autres. Ils se reçoivent pour faire goûter leur millésime récent. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette cuvée? J'ai l'impression qu'il y a un petit défaut. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité aujourd'hui chez les jeunes. Dans le village, on a la chance d'avoir des jeunes dynamiques qui font la promotion du village, qui communiquent, qui vont voir leurs importateurs à l'étranger, dans le monde entier, et qui font parler du village. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Il y a beaucoup de solidarité entre eux. Et je trouve que ça évolue dans le bon sens. On n'est plus à regarder derrière la porte de l'autre s'il a reçu tant de clients ou dans un... Je n'ai pas de sentiment de jalousie ni de rivalité. Et je trouve beaucoup d'entraide. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Mais le village se dépeuple et...
Et pourquoi il se dépeuple? Parce que c'est quand même super joli, c'est...
Oui, parce qu'il n'y a pas de jardin dans le village, les maisons sont resserrées, les viticulteurs gardent leurs maisons. Dans le village, on doit avoir une 60aine de maisons inhabitées. 60aine sur 250 habitants. Mais qui appartiennent à des viticulteurs, qui les gardent parce qu'ils ont besoin des caves pour stocker du vin. Hein, éventuellement, et puis ils s'en servaient pour loger des vendangeurs à une époque, qu'ils ne logent quasiment plus, puisque maintenant plus personne ne loge les vendangeurs, c'est devenu très compliqué, donc les maisons sont inhabitées. Donc c'est pour ça, les écoles, on est en limite de fermeture dans le village, parce qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de jeunes couples qui restent dans le village.
Mais si c'était des maisons qui servaient juste à héberger les vendangeurs l'été, elles étaient inhabitées aussi le reste de l'année?
Oui, elles étaient inhabitées aussi, mais ils s'en servent pour les caves, ouais. Pour stocker du vin.
Ouais. Et eux-mêmes, ils habitent...
Dans une des maisons du village.
Oui, d'accord. Ouais.
Ils habitent quand même dans le village. Mmh. Et souvent, ce sont des personnes âgées qui gardent Vous savez, le paysan, il garde au cas où, si jamais on manque, on a au moins des maisons. Ce sont des maisons qui se délabrent un peu, qui s'abîment, qui ne sont pas toujours entretenues. Mais si on demande, tiens, vous ne vendriez pas votre maison? Ah non, je garde au cas où, on ne sait jamais.
Mmh. D'accord, ouais, donc...
C'est partout, hein, ouais. C'est dans beaucoup de villages de la côte.
Donc par rapport à la vie qu'il y avait à votre époque... Vous voyez quand même le village plutôt se...
Oui, parce que les enfants, les jeunes viticulteurs qui ont des parents qui sont viticulteurs dans le village, par exemple, si vous voulez, ils ne resteront pas forcément habités dans le village parce qu'ils aspirent à avoir une maison avec un grand terrain, avec de la place. Et dans le village, il n'y a pas ça. Même si leurs parents ont une maison, elle va être enclavée, il n'y aura pas de cour. Donc, ils vont préférer aller habiter à l'extérieur. Donc, pour beaucoup de ces jeunes, ils habitent à l'extérieur du village.
Donc, dans la campagne alentour.
Dans les villages autour.
Ils font construire des maisons.
Voilà. Ils font construire des maisons, ils achètent des maisons un peu plus bas. Par exemple, si vous voulez, vous avez toute la côte viticole. Et plus au sud, vous avez des villages qui sont moins viticoles, qui sont plus agricoles, mais qui sont à 5 km, où là, vous avez... un prix au mètre carré qui est beaucoup plus attractif que nous sur la côte, et vous avez un terrain, vous pouvez faire une piscine, vous pouvez, voilà. Et,
et oui.
Voilà, en attendant que les parents prennent leur retraite et partent ailleurs, si vous voulez.
Et du coup, c'est pas remplacé par des gens qui viendraient, parce qu'il n'y a pas d'autre activité finalement que la viticulture.
Mais non.
Aussi.
Et non, ils ne mettent pas leurs enfants dans le village à l'école, et c'est un tout, si vous voulez. Alors voilà, moi je suis partie de la municipalité du village, mais c'est un peu compliqué. Le village, on a fait construire un lotissement il y a quelques années sur le sommet de la colline, mais voilà, c'est un petit peu...
Ça vous attriste ?
Je suis triste, oui, un petit peu, parce qu'on aimerait rapporter un peu de vie et un peu de vie à notre village. Qui, on est dans une courbe, alors je sais que souvent ce sont des courbes, et là on est dans la courbe un peu basse,
oui.
Où l'activité, la vie du village, on avait une épicerie qui a fermé, donc on n'a plus de commerce dans le village, à part des restaurants, mais voilà, la population vieillit. Et
vous qui êtes au contact des touristes, du coup, parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de touristes,
oui.
Essentiellement ? C'est essentiellement des étrangers, enfin des touristes.
Essentiellement, mais du fait du classement au patrimoine de l'UNESCO, on a vu une clientèle plus importante. Ça a développé notre activité. Il y a une attraction pour la côte qui s'est vraiment développée. On est sur la véloroute, pareil, qui attire énormément de monde. L'activité touristique s'est beaucoup développée depuis quelques années. Depuis une dizaine d'années, on va dire globalement une dizaine d'années.
Ah oui, d'accord. Donc, pour vous, le classement des climats, ça a vraiment été déterminant. Quoi.
Déterminant, oui. Donc, les clients du monde entier, on a une population étrangère qui s'est vraiment élargie. On a beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Australiens, beaucoup d'Asiatiques qui viennent voir. Les Asiatiques, les Japonais, ils vont venir une semaine en France, ils ont très peu de vacances, et ils passent à Volnay. Alors, expliquez-moi... voilà pourquoi Volnay, un petit village de 250 habitants, quand on a une semaine de vacances dans son année, on passe par Volnay. Alors ils vont à Paris, ils viennent à Volnay, et puis quelquefois ils vont à Chamonix parce qu'ils aiment la montagne, et ils repartent à Paris.
Et alors vous essayez de leur demander, mais ils ne parlent pas. Oui, pourquoi ils viennent ici ?
Anglais, hein ? Pourquoi vous êtes venu ? Vous connaissiez la maison ? Ben non, non. Et pourquoi ? Ben voilà, parce que Volnay, on rêvait de venir à Volnay, goûter du vin de Volnay. Parfait, très bien, nous sommes là.
C'est quand même intéressant de faudrait que je trouve des Japonais à interroger quand même. Savoir qu'est-ce qui leur est vendu là-bas, par qui, pour qu'ils aient cette image et que de si loin, ça semble comme un espèce de paradis, ça leur donne envie de venir à ce point-là. Quoi.
Je connais pas le pourcentage, mais il y a beaucoup de viticulteurs sur la côte qui exportent du vin au Japon. Hein.
Ouais.
Et ils sont amateurs de vin fin et ils aiment les bonnes choses, ils sont cultivés. C'est une clientèle très... très attractive, mais comme les Brésiliens qui sont là, ils ne sont pas là forcément très longtemps, ou des clients du monde entier, et ça s'est beaucoup développé. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé en 79, il n'y avait pas tous ces étrangers, on avait des Européens, beaucoup de Belges qui s'arrêtaient en descendant dans le sud de la France, les Suisses, parce qu'ils ne sont pas loin du tout, mais on n'avait pas une clientèle internationale aussi importante.
C'est intéressant. Et du coup, est-ce que depuis le temps que vous tenez le restaurant, vous avez vu... évoluer le goût de vos clients.
Oui. Allez, le chat, pousse-toi. Mais oui. Alors, je suis aidée par mon gendre et un peu ma fille aussi depuis quelques années, depuis 2 ans. Et mon gendre a travaillé dans un domaine viticole, dans une grosse maison de vin à Nuits-Saint-Georges. Il est professionnel en matière de vin et on explique, on essaie de faire partager notre passion à nos clients. On sert toujours nos vins, des vins au verre, on a des sélections de vins au verre et on essaie d'expliquer les terroirs, la notion de climat, les différences entre les parcelles, pourquoi un Volnay Cailleré va être différent d'un Volnay Clos des Chênes, même si les parcelles ne sont pas très éloignées. Et nous, c'est notre but de faire partager nos connaissances à nos clients. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, pour Johan, mon gendre, et ma fille Juliette. Et voilà. Mmh. Et ça, on le fait partager depuis 2 ans et on sent vraiment un attrait. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument... Le Volnay, c'est le Volnay, d'accord, mais il y a plein de sortes de Volnay. Et nous, avec le recul, donc moi, je ne suis pas viticulteur, j'ai une sélection on a une trentaine de Volnay différents, notre carte peut-être même plus que ça. Donc, on essaie de communiquer sur ces notions de terroir.
Et vous avez l'impression que vos clients sont plus intéressés
Il y a une évolution. Qu'avant. Une prise de conscience de la qualité, de la connaissance. Mmh. Oui. Mmh. Oui, j'ai trouvé que ça a beaucoup évolué en quelques années.
Mmh. Et au niveau de ce que... je t'ai fait peur. Au niveau de ce que les clients aiment comme type de vin...
Alors ça, c'est personnel. Hein.
Oui, ça, vous ne voyez pas de mode ou de...
Non. Mmh. Moi, je trouve que la biodynamie n'est pas quelque chose de... n'est pas une demande plus importante chez moi. J'ai quelques viticulteurs qui travaillent en biodynamie, mais j'ai très très peu de clients qui, j'en ai pas plus qu'il y a 10 ans, qui demandent des vins bio. Nous, on est dans la communication de la lutte raisonnée, de la protection des sols, voilà, on est dans ce discours-là et que, après, c'est personnel, vous aimez un vin. Alors, je peux comprendre, en effet, que la biodynamie soit une recherche et une demande au niveau de la clientèle. Mais moi, je ne vois pas plus de demandes à ce sujet. Mm. On est plus dans la notion des sols, de la différence du vin d'un terroir à un autre.
Mm. Donc les gens sont plus en recherche de typicité, en fait.
Oui, de typicité et de connaissance. Après, voilà, ils vont acheter 6 bouteilles et dire à leurs amis, tiens, ben voilà, je vais vous faire découvrir, j'ai acheté des bouteilles d'un Volnay Cailleré, regardez, je vais vous faire comparer avec un Clos des Chênes ou un Champan. Vous allez voir, je trouve qu'il y a une prise de conscience de la connaissance et de la culture. Mm-hmm. Voilà. Moi, j'ai des clients qui demandent à en savoir plus et qui se posent des questions sur cette notion de terroir. Mm-hmm. Voilà. Pourquoi un Volnay Cailleré est différent d'un Volnay Clos des Chênes? Et dans la boutique, on a des grands vases avec des échantillons de terre et on peut expliquer aux clients, ben voilà, là, en effet, vous voyez bien, au niveau des Volnay Clos des Chênes, il y a des cailloux que l'on retrouve moins en Cailleré et en Champan, la terre est rouge. Donc voilà, on explique toutes ces différences. Et on a une clientèle qui est sensibilisée et c'est ce que je trouve très intéressant. Oui, le client qui va venir acheter 6 bouteilles de Volnay parce que voilà, le prix est bon et qu'il s'est fait plaisir, il a 6 bouteilles de Volnay. Oui, c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer au client voilà, pourquoi il y a telle différence entre ce Volnay-là et l'autre.
Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ça?
Ben, c'est notre terroir, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. On est des privilégiés hein, sur la côte et c'est ce qui nous différencie des autres, parce qu'on a un village unique, et je trouve qu'on a un patrimoine, j'ai la chance d'avoir des viticulteurs, des jeunes viticulteurs dans le village qui nous font tous ces commentaires, je vais déguster chez les uns, chez les autres, et ils m'expliquent cette différence, voilà, tu vois, cette parcelle, la carrelle sous la chapelle, ça donne tel type de vin, ils m'emmènent dans la vigne, ils m'expliquent pourquoi le vin est comme ça. Et pourquoi la vigne qui est à 50 mètres à côté donne un autre vin pour telle raison. Et je ne vois pas pourquoi je garderais ça pour moi. Donc on le fait partager avec mon gendre, on communique avec nos clients. Et pour moi c'est fondamental. Mmh. C'est notre patrimoine Et pour moi, c'est très important. Mon père n'avait pas ces notions-là, n'avait pas. C'est quelque chose de relativement nouveau. On a de meilleures connaissances au niveau des sous-sols, au niveau de la géologie. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une richesse.
Pour votre papa, vous vous souvenez ce que c'était pour lui un bon vin? Ce que ça voulait dire?
Un bon vin, c'était un vin qui plaisait à ses clients, qui n'avait pas trop d'acidité, pas trop d'amertume. Voilà, il fallait que le vin soit goulayant. Mais on avait des années qui étaient... sur une dizaine d'années, il y avait une année exceptionnelle, il y avait 4 années qui étaient bonnes, et puis il y avait des années où c'était de la piquette, comme c'était pas bon, quoi. Donc, mon papa n'avait pas la culture, je dirais, au niveau du palais, comparable à ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Mais... ça a beaucoup évolué. Et puis, ils communiquaient peu entre eux dans le village, même s'il avait des amis dans le village. Il n'y avait pas... Non, je pense que c'est pas un reproche du tout, ni une critique. Hein. Mais je pense que les connaissances étaient différentes.
Ouais.
L'approche était différente.
Et les exigences,
on faisait du vin parce qu'il fallait nourrir sa famille, il fallait vivre. Et là, aujourd'hui, c'est mieux si ça se passe comme ça. Mais en plus, on se pose des questions. Voilà. Comment améliorer la qualité d'un vin? Que peut-on faire pour que le sol nous produise la meilleure qualité en référence au terroir?
Est-ce que les viticulteurs de Volnay aujourd'hui sont confiants vis-à-vis de l'avenir?
Oui. Ah oui, ils ont une énergie folle. Ils ont une énergie folle et j'allais dire, il y a une locomotive remplie de plein de jeunes qui tractent tout un village. Donc, oui. Il y a une prise de conscience terrible. Et je trouve ça formidable. Donc, on y va.
Oui, on y va. Pas d'inquiétude, par exemple, vis-à-vis du changement climatique, ces choses-là.
Non, Monsieur Trump leur pose quand même quelques soucis avec ses taxes, parce que les États-Unis sont un gros marché au niveau viticole. Tous ont des agents aux États-Unis et c'est très compliqué. Donc, c'est un peu le souci actuel, j'allais dire. Mais quant à la qualité des vins et au développement, si c'est plus les États-Unis, ça sera autre chose, quoi. On est en pénurie de vin, hein. Ils ont des petites récoltes, à part 2017, 2018, où on a eu un petit peu plus de vin, mais suite à des années vraiment très très pauvres. Donc je ne les sens pas du tout déprimés. Hein. Non.
Au contraire.
Au contraire.
Confiant.
Oui.
Et au contact de tous ces touristes qui passent, vous avez l'impression, ou en parlant avec eux, qu'ils ont quelle image de la Bourgogne? Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher?
Ils viennent chercher des éclaircissements sur le, j'allais dire, sur les vins. Ils sont en quête d'informations. Ils veulent en savoir plus. Parce qu'autrement, si vous ne vous déplacez pas et que vous achetez du vin, vous pouvez très bien le faire par Internet, vous pouvez le faire par des réseaux divers et variés, vous pouvez aller chez votre caviste. Donc, les clients qui se déplacent sont demandeurs de voir ce qui se passe dans le village, de rencontrer les viticulteurs, ou de rencontrer des personnes du cru, de voir les vignes. La côte est... en toute honnêteté, très belle, surtout à certaines périodes. Et voilà, c'est une demande de se déplacer pour voir, pour s'imprégner de la région. Je pense que c'est de goûter aux produits locaux, aussi bien à la gastronomie locale, de l'accompagner de bons vins, et de rencontrer des viticulteurs.
Oui, c'est vrai que ça, je me rends compte que ça a dû évoluer beaucoup, parce que... Avant, il fallait venir pour acheter le vin. Quoi.
Oui.
Aujourd'hui, ceux qui viennent, c'est forcément ceux qui sont plus passionnés que les autres. Bien sûr.
Vous avez plein d'autres méthodes pour acheter du vin. Ouais. Comme je vous ai dit, vous allez chez le caviste de votre région. Vous pouvez commander sur Internet, on trouve tout. Donc, il y a une autre demande. Ça veut dire qu'il y a des personnes beaucoup de personnes qui sont très motivées pour se déplacer, pour venir sur place. La Bourgogne est centrale, hein. Donc que vous veniez si vous êtes français, c'est assez central, européen aussi. Et puis, de Paris, on n'est pas si loin, hein, quand les étrangers arrivent, ou de Lyon, c'est simple.
Oui, bien sûr, oui.
On est une zone de passage.
D'accord. Et ils achètent beaucoup quand ils viennent ou au final ils viennent découvrir et ensuite et se faire livrer
Il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout, c'est varié, c'est varié. Donc on a tous les cas de figure. On a tous les cas de figure, mais globalement, pour les étrangers, avec l'exportation, c'est un petit peu plus. Enfin, on travaille avec des transitaires, hein, on peut exporter partout dans le monde. C'est une activité que l'on a développée depuis peu avec mon gendre, mais ça coûte très cher. Si vous êtes aux États-Unis, il y a des taxes importantes, il y a le transport, si vous êtes australien et autres. Mais non, non, il y a un beau développement.
Un beau développement.
Il y a un intérêt, si vous voulez. Voilà.
Par rapport à d'autres régions de la côte ou de la haute côte, vous avez le sentiment de vous positionner comment? Moi, j'ai assez peu de. Enfin, je veux bien qu'on est au centre. Enfin, voilà, c'est quand même un village qui, de ce point de vue-là, est bien, quoi. Va bien, mais est-ce que vous avez le sentiment que.
Moi, je pense que la Bourgogne va bien, hein, malgré tout. Malgré un contexte économique national qui n'est peut-être pas au mieux de sa forme, mais non, non, je pense que la côte et même les hautes côtes, j'ai des fournisseurs des hautes côtes, que ce soit à Nantoux, à Échevrone, à Deuzize-les-Maranges, enfin Deuzize-les-Maranges, c'est pas les hautes côtes, mais non, on a, je pense que il y a une belle évolution.
Et alors j'ai une question peut-être qui est un peu vaste et vague, mais est-ce que vous sauriez me dire pour vous qu'est-ce que c'est que le modèle bourguignon? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui est vraiment typique du modèle viticole bourguignon et qui est identifiable?
Les terroirs, la notion de terroir, du respect de la terre, des parcelles. Ça, c'est très propre à la Bourgogne, parce qu'on identifie vraiment ces petites parcelles à un vin, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres, de la plupart des autres régions viticoles françaises. Et ce qui me rend confiante, c'est que les viticulteurs, que ce soit dans toute la côte de Beaune et la côte de Nuits, il y a cette sensibilisation. Voilà. On doit défendre notre terroir au travers de ces parcelles qui sont vraiment emblématiques à la région. Pour moi, c'est ça le modèle bourguignon. C'est dire, ben, mon Volnay Clos des Chênes, c'est un Volnay Clos des Chênes et c'est pas un Volnay. C'est une identité. C'est une identité.
Donc pour vous, c'est vraiment le terroir et d'un point de vue peut-être plus culturel ou
Oui, carrément.
humain et social, le modèle bourguignon, est-ce que c'est aussi quelque chose?
Ben, c'est l'entraide et la solidarité de tous ces viticulteurs qui font avancer l'image de la Bourgogne.
D'accord.
En faisant la promotion des vins au travers le monde, en communiquant, en défendant nos valeurs, nos terroirs, notre culture locale. Et bon, c'est fini le temps des coiffes bourguignonnes et des bancs bourguignons. Voilà, c'est fini, ça existe toujours. Mais c'est un tout. Mais pour moi, c'est l'identité de nos terroirs.
Vous avez dit le mot valeur, c'est quoi pour vous les valeurs
Ça, tout ça.
bourguignonnes?
Tout ça. Le terroir, je ne parle pas d'argent parce que ce n'est pas une notion financière. C'est une richesse de notre patrimoine. Nos sols, voilà, étaient déjà exploités du temps des Romains et c'est pas par hasard si ça dure toujours. Et on se doit de les préserver et de les conserver pour les générations futures.
Vous le vivez comme une responsabilité?
Oui. Ouais.
Est-ce que ça, vous avez eu le sentiment que vos parents vous l'ont inculqué? Ou que c'est venu
Ah
d'ailleurs.
oui, non, non. Moi, mes parents me l'ont inculqué. Ouais.
C'est passé par quoi?
C'est passé par des conversations, des discussions, par qu'on ne se démunit pas de vignes, on essaie de les garder, de les perpétuer, de perpétuer l'activité, l'exploitation, parce que c'est quelque chose d'important. Et c'est un refrain global dans le village, hein. Si quelqu'un doit vendre une vigne pour une raison ou pour une autre. C'est un crève-cœur, quoi. quand il n'y a pas d'héritier, quand il n'y a personne qui reprend, si le domaine doit être vendu, d'ailleurs très peu de domaines ont été vendus à des étrangers, j'allais dire, hein, par rapport au Bordelais. En général, les vignes restent vendues à des locaux, à des viticulteurs du coin, parce qu'on veut préserver cette identité.
Oui, et qu'est-ce qui se passe si c'est transmis à des gens qui ne font pas partie de la culture locale?
Bah, ça contrarie un peu tout le monde, quoi. Parce que ça peut être le cas, la terre a pris de la valeur énormément. Donc ce n'est pas forcément les viticulteurs du village qui pourront proposer des sommes importantes. Donc quelquefois, mais c'est rarissime, voilà, ça a été vendu à des personnes. Mais dans le village, non, on n'a pas de cas, mais ça arrive. Hein.
Ouais. J'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que vous pensez que si les terres perdaient de leur valeur, enfin si en tout cas il y avait plus cette manne financière qui est autour des vins de Bourgogne, est-ce que vous pensez que cet attachement au terroir il pourrait persister, qu'il serait assez vivace pour
Moi je dirais oui, globalement oui. Oui, je suis convaincue. On peut pas parier sur tout le monde, hein, mais je dirais que globalement à 95% oui. J'en suis sûre. Il y a toujours eu des cycles, vous savez, dans la vigne où il y a eu de belles années, il y en a eu de moins belles, après, voilà, et puis ça remonte. Et je pense qu'il y aura toujours des personnes. Les domaines sont petits sur la côte et j'ose espérer que j'ai raison.
Mais, ah oui, oui. Ça, vous, ah, oui. Cette confiance, ah, oui. vous la mettez aussi parce que vous voyez l'enthousiasme des jeunes.
Bien sûr, oui, oui. Et je les imagine mal parce qu'on aura une année, des années plus difficiles. D'ailleurs, on a eu le cas, hein, 2012, 2013, 2014, de la grêle, 2015, sécheresse, 2016, gel, enfin 2017, 2018, du vin. Mais quand même, pendant 5 ans, ils n'ont pas fait de vin. Donc, il n'y a pas eu de domaine en vente. Hein. Donc, ils se sont dit, allez, on y va, on continue. Et c'était dur, hein. Il n'y avait plus de trésorerie, il n'y avait pas de vin. C'était compliqué, hein. Maintenant, ils se sont serrés les coudes et puis ils ont continué. Et heureusement, 2017 est arrivé, 2018, et voilà, et ils sont confiants.
Ok, bon, c'est intéressant tout ça. Je regarde si j'ai rien oublié. Je sais pas quelle heure il est.
11h30.
Je sais pas, est-ce que peut-être il y a des choses que vous aimeriez transmettre ou dire sur votre expérience du monde viticole?
Je crois que je vous ai dit pas mal de choses, mais pour un métier qui n'est pas le mien finalement, mais qui est lié quelque part, non, pour vous dire que, en résumé, voilà, que moi je suis très confiante en l'avenir, même si à 60 ans, j'ai déjà beaucoup œuvré pour la continuité et nos traditions régionales. Mais moi, je suis très confiante et je crois en une tradition et je suis persuadée que la conservation de nos traditions viticoles et de progresser pour avoir une qualité... Qui sera la seule solution pour sauver la Bourgogne. Il faudra faire du bon vin. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on est à Volnay ou à Pommard que le vin est forcément bon. Donc, moi, je crois en cette notion d'avancer pour que la qualité soit au mieux, malgré les années.
C'est quoi les traditions viticoles pour vous? Quand vous entendez quoi par tradition viticole?
Préserver nos terroirs, préserver nos sols. Préserver nos sols sans trop les polluer, le moins possible, parce que la terre s'épuise quand même dans certains endroits du monde. Et du temps de mon papa, dans les années 70, on utilisait des produits. Quand mon père rentrait des vignes, quand il sulfatait pour traiter ses vignes, il rentrait tout vert, tout bleu.
Tout vert,
voilà, parce qu'il utilisait des produits, des sulfates, qui étaient hyper agressifs. Donc ça, c'est fini, il y a déjà très longtemps. Donc on a quand même des notions de qualité, pour ne pas polluer nos nappes phréatiques, pour ne pas polluer nos sols. Donc cette prise de conscience est indispensable. Pour moi, ça c'est vraiment très 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 important. et qu'on utilise nos connaissances pour faire les vins qui soient les plus purs, les plus nets et les plus représentatifs de nos villages, en respectant nos sols et en respectant notre environnement. Pour moi, c'est ça le fondement.
Bon, bah, on va terminer là-dessus, ça me paraît une belle conclusion.
Voilà.